Salut à vous, chers auditeurs. Voici l'émission Coup de tête, l'émission rock'n'foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 38e journée de championnat de Ligue 1. Dernière émission de l'émission Coup de tête. Et aujourd'hui, je reçois Eric. Salut à toi, Eric.
Salut Marco, salut à toutes et à tous.
Olivier, étant absent, il nous fait un coucou, bien sûr. Il reviendra peut-être la semaine prochaine animer une émission spéciale, mais on se retrouvera, bien sûr, chers auditeurs, à la fin de l'été. Au cours de cette émission, deux consultants viendront donner leur avis sur le match qui a pu avoir lieu pour cette dernière journée à Geoffroy Guichard. Cette confrontation face aux nordistes de Lille, au cours de cette émission, on va énormément décortiquer cette rencontre-là. On va bien sûr parler du foot en Haute-Loire, parler des tops et flops, des coups de tête, des coups de cœur, évidemment, comme d'habitude. Et puis de la bonne musique. L'émission peut commencer. Semaine verte oblige.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte.
Semaine verte un peu spéciale puisque ça a été focalisé sur cette célébration du 40e anniversaire de la finale de Glasgow. Eric vous en dira un peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Sinon, au cours de cette semaine de mai, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Saint-Étienne a signé un contrat pro pour le jeune gardien Alexis Guendouze, un jeune qui a une vingtaine d'années. Il a le profil de Ruffier. On a appris aussi la sanction pour les deux expulsés de la semaine précédente. Tabanou a pris 3 matchs fermes quand même. On peut juger ça sévère par rapport à d'autres rouges qui ont été pris par d'autres joueurs au cours de l'année. Mais 3 matchs fermes pour Tabanou, 1 pour Malcuit. Le nouveau maillot officiel a été présenté ce jeudi à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire. On peut signaler aussi qu'il y a eu une vente aux enchères. On a appris que Beric allait retrouver l'effectif stéphanois dans le groupe, en tout cas pour affronter les Dogs lillois. Et bien sûr, on a appris la liste des bleus de Didier Deschamps, et qui se fera sans stéphanois, sans Vert, sans Ruffier et sans Perrin, qui avait quand même un petit espoir. Mais c'est bien dommage. Et début de mercato, on va dire, puisque c'était la dernière journée, on a l'impression que Bayal veut s'en aller, mais c'est plus qu'une impression parce que ça fait quand même 1 an et demi qu'il dit qu'il veut partir. Et puis déjà une touche avec un défenseur pour le remplacer, ça serait Diane, le Sénégalais de Nancy. Voilà ce qui s'est passé au cours de la semaine verte. On va passer tout de suite à la composition du match face à Lille. Alors Galtier avait une défense un petit peu toujours similaire avec l'absence de Bayal. Ça donnait Ruff, devant lui Pogba et Perrin, à droite Théophile, à gauche Assou et Koto. Devant lui le milieu 3C, Clément, Coad, Cornier. Sur la gauche Kevin Monet-Paquet, sur la droite Roux. Et en pointe, Neil Maupay. Voilà le 11 de départ aligné par Galtier pour affronter cette équipe de Lille, qui était sixième avant ce match et Saint-Étienne était cinquième. C'était ce qu'on appelait la petite finale. Donc pour Saint-Étienne, les choses étaient claires. Il ne fallait pas perdre pour conserver cette cinquième place qui est synonyme direct de qualification pour les tours préliminaires de Ligue Europa. Pas de surprise dans ce schéma tactique, on va dire. Peut-être si on peut dire c'est Cornier qui remplace Esric. Quand je dis pas de surprise, si j'étais surpris que Cornier soit aligné alors qu'il a été mis à l'écart quand même pendant plus d'un mois. Ça commence fort pour les Lillois, puisqu'ils obtiennent un coup franc sifflé sur Balmont. Et il faut un bel arrêt de Ruffier. C'est Corchia, hein, qui il me semble qu'il le tire. Et alors c'est un arrêt de Ruffier, mais ça touche le poteau. Voilà, mais on sent déjà une équipe lilloise qui est venue à Geoffroy Guichard avec des intentions de l'emporter, parce que eux aussi ils avaient pas le choix. Pour être devant Saint-Étienne, il fallait simplement l'emporter pour eux. Huitième minute de jeu, c'est Amalfi Tano qui tente un tir écrasé, mais c'est capté facilement par Ruffier, et la première alerte stéphanoise arrive à la 13e minute. C'est Cornier qui tente de déborder sur la gauche, mais il est rattrapé. On sent toujours une timidité de la part des protagonistes stéphanois de s'approcher des buts adverses. Et il faut attendre donc cette 13e minute ou cette 14e minute. Donc une minute plus tard, c'est Mopé qui est esselé, mais qui malheureusement perd la balle. Ce sont des tentatives trop timides, trop inoffensives de la part des Stéphanois. On peut souligner à la 20e minute, c'est Roux qui centre et trouve un corner. On sent à ce moment-là des Stéphanois plus incisif dès la 20e minute, et le premier tir cadré, on va dire, de la part des Stéphanois vient de suite à un corner. C'est Perrin qui donne un coup de tête, et il faut une belle parade d'Enyama à ce moment-là. C'est quand même un tir cadré, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu dans cette équipe de Saint-Étienne. Deux minutes plus tard, c'est Mopé à 25 mètres qui tente une frappe, mais c'est également capté par le portier stéphanois. Et puis Roux, qui est assez mobile sur son côté, adresse deux centres consécutifs, hein, 23e et 24e minute, mais qui ne donneront pas grand chose. Et c'est dommage, parce que je sens que sur le côté droit ça peut passer, voilà. Et 27e minute, un très beau mouvement de la part de cette équipe stéphanoise qui se termine par un tir de Cornier, mais surtout un centre en retrait d'Assou et Koto qui avait bougé de sa place de défenseur et qui avait adressé un superbe centre, mais Cornier la met à côté. Sinon, frappe de Cornier à la 37e minute sur un service toujours du même Roux. Et Roux qui va s'illustrer, qui va adresser un bon ballon sur Catherine, mais ça ne donnera rien. C'est un petit peu trop lent, trop mou, et intervient en fin de compte une réaction lilloise avec ce pénalty sur une contre-attaque lilloise sur le côté droit, un pénalty sifflé par monsieur Turpin, et c'est Eder qui le transforme. Le pénalty, c'est Coad qui fait une faute. Il accroche Lopez suite à une belle contre-attaque et une passe en profondeur des Lillois. Et voilà, il tombe un petit peu avant Lopez, hein, il simule un petit peu, mais c'est vrai Coad lui accroche un petit peu le genou. Et Eder le transforme, ça fait un but à zéro à ce moment de la partie. En fin de première mi-temps, les Verts ont du mal à le digérer, et c'est sur ce score de 1-0 en faveur des Dogues Lillois que M. Turpin siffle. On sent deux blocs qui se neutralisent. On le pensait, hein, même si on annonçait une petite finale, c'est quand même deux gros blocs défensifs qui se neutralisent, et il faut peu de choses pour faire la différence, et ce peu de choses, ça a été ce pénalty sifflé par monsieur Turpin à ce moment-là.
Tout à fait, donc mené 1-0 à la pause face à leurs concurrents directs, les Verts doivent impérativement égaliser car ils se retrouvent provisoirement 6e. Ils sont les premiers à se mettre en évidence par l'intermédiaire de Cornier qui, à la 50e minute, prend sa chance de loin, mais croise trop son tir. Il cède peu après sa place à Amouma, dont l'entrée en jeu va dynamiser l'attaque stéphanoise. Sur son premier ballon, il effectue une bonne déviation de la poitrine pour Monet Paquet, qui dévisse totalement sa frappe. Les Lillois procèdent par contre. Sur l'un d'eux, rondement mené, Sidibé côté gauche centre pour le buteur Eder, mais le Portugais est un poil trop court pour reprendre. Copier-coller 10 minutes plus tard, on retrouve Sidibé dans le rôle du centre centreur et Eder à la réception. Il parvient cette fois à prendre le dessus sur Pogba, mais sa reprise n'inquiète pas Ruffier. Ruffier, mis à contribution quelques minutes plus tard, sur un corner de Lopez très en vue samedi soir, repris par Bacha. Dans la foulée, les Verts auraient pu obtenir un pénalty pour une main dans la surface de ce même Bacha suite à une frappe aux 20 mètres de Roux, mais M. Turpin ne l'accorde pas. Petit événement à la 67e minute de jeu avec le retour tant attendu sur le terrain de Béric qui remplace Mopé. Christophe Galtier abat toutes ses cartes offensives pour obtenir une égalisation synonyme de qualification européenne. À la 80e minute, Théophile Catherine centre pour Roux qui prolonge dans la course d'Amouma. L'attaquant stéphanois s'écroule au contact d'Eniama, mais l'arbitre une nouvelle fois ne bronche pas, provoquant le courroux de Christophe Galtier.
Étant bien placé, M. Turpin. Hein.
Toujours. Les Dogs répliquent par Nongis qui s'infiltre plein axe et adresse une frappe du gauche captée en deux temps par Ruffier. On arrive dans le temps additionnel. À ce moment-là, les Greens craquent des dizaines de fumigènes entraînant l'interruption de la rencontre. La fumée s'étant quelque peu estompée, le match finit par reprendre mais est à nouveau arrêté par l'arbitre suite à un jet de pétard sur Eniama qui s'effondre. Un geste stupide qui pourrait coûter très cher. La rencontre s'achève dans la confusion la plus totale, un départ d'incendie se déclare même dans le COP Sud, obligeant l'intervention des pompiers. Plutôt que les supporters mettent le feu dans les gradins, on aurait préféré que ce soit les joueurs qui le fassent sur le terrain. Les Verts qui restaient sur un bilan très positif dans leur dernière rencontre de championnat joué à domicile, 23 victoires, 7 nuls, 3 défaites seulement, s'inclinent 1-0 dans ce match décisif. Ils ont craqué dans le money time, ne prenant qu'un point sur 9 lors des 3 dernières rencontres et se montrant incapables d'inscrire le moindre but. Le rideau est tombé sur cette saison 2015-2016. Les Stéphanois, devancés par leur adversaire du soir, terminent 6e, leur plus mauvais classement depuis 2012. Ils devront attendre samedi pour savoir s'ils joueront ou non l'an prochain la Coupe d'Europe pour la 4e année consécutive. Leur participation est conditionnée à une victoire du Paris Saint-Germain face à l'OM en finale de la Coupe de France.
Ouais, exactement. Ben, c'est des Lillois qui passent 5e et qui nous font tomber. Donc le titre, le premier titre musical, ça sera ben, des Lillois, Skip the Use avec Falling. I am the king in my castle, a leadership, the number one. I got some money, I got the power. I am the king.
Down. I'm falling on the ground. I know my system is going down.
les Lillois, Skip the Use, avec ce titre Falling. Et oui, ils nous ont fait tomber, ces Lillois. Dans le studio, je reçois deux supporters qui sont venus de loin quand même. Salut à toi, Karl.
Bonjour.
Bonjour, Marco.
Et Pierrot, salut à toi.
Salut, Marco.
Voilà, ils ont assisté à cette rencontre, cette défaite, 1-0 à domicile pour cette dernière journée de championnat. Alors la première question, messieurs, à votre avis, sans Spéno, est-ce que les Verts auraient pu l'emporter ? Eric ?
Écoute, c'est difficile à dire et de deviner le scénario de fin de rencontre. Pour une fois, on a réussi à cadrer quelques tirs. Ça nous changeait des précédentes rencontres. Après, dans le jeu, ça reste, c'est pas très folichon une nouvelle fois. Donc, on savait qu'en encaissant ce premier but, ce serait compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude de revenir au score dans ce genre de situation. Après, sait-on jamais ce qui aurait pu se produire en fin de rencontre, mais ce penalty concédé un peu stupidement par Quad à juste avant la mi-temps nous a fait beaucoup de mal. On est rentré au vestiaire un petit peu la tête dans le seau et en deuxième période, on n'a pas eu la capacité à se relever.
Ouais, moi j'ai senti franchement des Verts ces 10 derniers matchs incapables de réagir, même sans encaisser ce penalty, je sais même pas s'ils seraient allés chercher le but victorieux, tellement les prestations ces derniers temps des Stéphanois étaient beaucoup trop défensives et à force de gérer, on descend dans ce classement. Messieurs, est-ce que vous avez un point de vue sur l'envie des Stéphanois, parce que bon, la question sans Spéno, est-ce que les Verts l'auraient emporté, Pierrot?
Ouais, c'est un peu difficile à dire, effectivement, parce que si on était revenu par exemple à un partout, Lille aurait peut-être, aurait joué son jeu. Et donc, on a essayé de pousser sur les 10 dernières minutes notamment, mais ça n'a pas suffi parce qu'on a vu Lille était très défensif.
Ouais, il y a un autre élément qui est très important, c'est Monsieur Turpin. Monsieur Turpin qui joue un rôle quand même assez primordial dans ce résultat final. Autant le penalty, je l'ai dit tout à l'heure, il y a moyen de siffler penalty parce que Quad il met son genou, mais on sent que c'est Lopez en rajoute. Par contre, en deuxième mi-temps, Monsieur Turpin, il aurait dû siffler au moins un voire deux penalty.
Oui, tout à fait. Il y avait déjà cette main sur la frappe de Roux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc tous les Stéphanois réclamaient un penalty qui n'a pas été accordé par Monsieur Turpin. Et par la suite, Amouma qui a été crocheté par Enyama. Monsieur Turpin est allé voir Amouma qui a depuis quelque temps une réputation à plonger. Je pense que ça l'a desservi à ce niveau-là. Et du coup, il n'a pas sifflé ce penalty qu'attendait tout le peuple vert.
Karl, un avis sur l'arbitrage de Monsieur Turpin ?
Il a été très très mauvais en fait.
Oui, il a toujours été très mauvais. J'ai jamais connu ce monsieur assez bon. Les Verts ont pas été transcendants, ça on le sait. Mais Monsieur Turpin, moi je trouve qu'il a été malhonnête sur ce coup-là parce que aussi siffle le penalty transformé par Eder, il doit siffler la faute d'Enyama sur Amouma. Elle me paraît évidente, il est à côté, pour moi, Monsieur Turpin, il est malhonnête et ça nous coûte 1,3 million. Et oui, 1,3 million entre la 5e et la 6e place. Et il n'y a pas que ça, puisqu'il y a aussi cette qualification directe pour les phases qualificatives de la Ligue Europa. Top et flop. Trois joueurs qui sont passés à côté de leur match, trois joueurs qui vous ont marqué. Eric ?
En top, je dirais Stéphane Ruffier, qui une nouvelle fois a bien fait ce qu'il avait à faire. Il ne s'est incliné que sur le penalty d'Eder. Et juste avant la pause, il a empêché l'attaquant portugais de doubler la mise au prix d'un arrêt réflexe qui a maintenu les Verts en vie. Mention spéciale également pour Amouma, qui s'est montré tranchant dès son entrée en jeu et aurait dû, comme on vient de le dire, obtenir un penalty. Enfin, je citerai Nolan Roux, qui, comme d'habitude, s'est beaucoup démené sur le front de l'attaque.
Messieurs, vous avez un ou deux joueurs qui vous ont plu ?
Ouais, moi je voudrais rajouter Coat parce qu'il avait vraiment une super mentalité tout le match et il a récupéré énormément de ballons. Donc je trouve qu'au milieu de terrain, c'est lui qui a activé pas mal l'équipe.
Ouais, il s'est mené Coad, il s'est battu pendant les 90 minutes, hein, il a été relativement actif. Ouais, Ruf, pour moi, effectivement, hein, ça reste Héroux. Moi, j'ai beaucoup aimé Roux. Sur son côté droit, c'est lui qui a été le plus tranchant, tout simplement. Les flops.
Ah ben, on va commencer par Benjamin Cornier. On va commencer par Benjamin Cornier, non ? Parce qu'il a vraiment raté deux belles occasions en première mi-temps.
Oui, la première mi-temps, effectivement, après le quart d'heure de jeu, c'est les premières occasions stéphanoises et cette deuxième frappe est trop écrasée, malheureusement, elle est trop facile pour le portier lillois. Ouais, Cornier, Eric, tu en as ?
Moi, je mettrais Assoué Koto. Dans l'entame de match, a été catastrophique avec plusieurs ballons expédiés directement en touche. Après, donc, je suis d'accord pour Cornier. Bon, il a eu le mérite de tenter sa chance plusieurs fois en première mi-temps, mais il n'est pas parvenu à prendre le jeu à son compte. Faut dire qu'il n'avait pas joué en équipe première depuis deux mois, donc c'était pas simple non plus pour lui. Et puis, Monet Paquet, toujours aussi brouillon, et Mopé qui n'a pas pesé sur le front de l'attaque. Enfin, faut dire qu'il fallait, c'était quand même pas simple de scoltiner
Sivelli.
Bacha et Sivelli, quand même, deux sacrés bestiaux.
Ouais, moi, Mopé, moi, ça me dérange parce que les fois où il rentre, moi, je pense pas que c'est pertinent de la part de Galtier de mettre Mopé comme ça sur des rencontres déjà importantes. Et ça fait trois fois que je le vois titulaire et je sais pas, ou faut pas le laisser tout seul comme ça, ou tu mets un Söderlund juste à côté et tu fais tourner Mopé autour d'un pivot, mais tu mets pas tout seul un gabarit tel Neil Mopé face à des monstres comme Sivelli. J'ai toujours du mal, donc Mopé pour moi aussi c'est un flop parce que en contrôle ça n'a pas été ça, en rapidité à un moment donné il a une balle et puis il met 10 plombes à se relever et à pouvoir passer ou à pouvoir frapper. Ouais, c'est un de mes flops et puis Monet Paquet il était pas, et puis on a vu qu'il s'est fait bouffer physiquement sur son côté, même si de temps en temps il essayait, mais bon, ça reste un petit peu timide. On va passer au bilan. Non, le bilan on le fera peut-être en fin d'émission. Eric, tu étais présent pour cette célébration du 40e anniversaire de la finale de Glasgow 76. Comme tu y étais, ton ressenti, ton témoignage par rapport à tout ça.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre de l'intérieur cette semaine de célébration au plus près des anciens verts. Donc c'était une semaine de célébration, les joueurs sont arrivés le vendredi 6, j'avais pu aller à leur hôtel à ce moment-là, puis je les avais suivis à la séance dédicace qui s'était déroulée à Auchan-Villars, on en avait parlé lors de la précédente émission.
Exact.
Ensuite, j'ai pu les suivre également au golf le week-end précédent, et donc on est arrivé à ce fameux jeudi 12 mai, donc on célébrait les 40e anniversaire jour pour jour de la finale de Glasgow. France Bleu Saint-Etienne, pour l'occasion, a bouleversé ses programmes et monté une opération spéciale pour mettre à l'honneur les anciens verts tout au long de la journée. Les joueurs se sont succédés à l'antenne et ont ensuite déjeuné dans les locaux de la radio. Alors, je voudrais dire un grand merci à Jacques Vendroux qui m'a délivré un pass me permettant d'accéder au sein des saints et de passer toute la matinée en leur compagnie. J'ai pu ensuite les accompagner à Geoffroy Guichard et au Musée des Verts. Et puis après, j'ai fait comme des milliers de supporters stéphanois, c'est-à-dire que j'ai pris la direction de la place Jean Jaurès pour la grande soirée montée par le coq sportif. Donc on était à peu près 10-15 000, hein. Bon, le temps n'était pas au beau fixe malheureusement. Donc il y a d'abord différents artistes locaux qui sont produits en concert. L'équipe de cette saison a été présentée par la suite au public. On a pu découvrir en avant-première le nouveau maillot. Puis les anciens sont montés sur scène et ont été acclamés par la population stéphanoise. Monty est venu interpréter l'hymne des Verts repris par tous. Une bien belle soirée orchestrée de main de maître par Michel Drucker, Hervé Matou, Yannick Noah et Laurent Paganelli. Il y avait beaucoup de beau monde, hein, y compris tout à l'heure dans les locaux de France Inter. Il y avait, outre les deux présidents, le maire de Saint-Etienne, pas mal d'anciens joueurs, Daniel Lombroso qui animait une émission spéciale, qui était venu spécialement de Paris pour animer une émission avec Mickey 3D et Monty. Donc il y avait plein de choses très sympas à vivre. Et puis par la suite, le vendredi, en soirée, il y avait une conférence donnée par Jean-Michel Larquet dans l'auditorium près de la Cité du Design, toujours à Saint-Étienne. Et puis donc samedi, pour la dernière journée de championnat face à Lille, dès le matin, une grande séance dédicace, une nouvelle fois organisée au Musée des Verts. L'après-midi, quelques joueurs sont venus à l'Assemblée Générale des membres associés, et en particulier Jean-Michel Larquet, qui est venu à la rencontre du peuple vert, monté sur un strapontin, micro en main. Il a rappelé que le match de Lille n'était pas capital, mais décisif, et il nous a dit qu'il savait très bien que chaque fois que les Verts avaient besoin des supporters, dans les grands rendez-vous, le public répondait présent et qu'il savait que le chaudron allait pousser comme jamais ses favoris pour cette rencontre très importante. Voilà, donc, et puis, bien évidemment, avant la rencontre, tous les anciens de 76 ont foulé la pelouse de Geoffroy Guichard, ont été acclamés par le public. Ils ont chacun reçu des mains de Roland Romeyer une lampe de mineur, symbole de la ville. Et ensuite, donc, ils sont allés saluer les tribunes et ont reçu l'ovation qu'ils méritaient.
Exact, et un tifo des Greens aussi, un joli tifo côté sud, qui était sympa. En tout cas, une belle semaine concernant nos anciens verts. Il y en a qui ont compris quand même un coup de vieux, hein, quand tu les revois. Et il y en a, je trouve, comme Lopez, hein, putain, il vieillit pas lui, hein. Il vieillit pas. Bon, on va passer à un deuxième titre musical. Et bah, moi, j'étais colère, je vous en parle tout de suite après. Donc le titre suivant, c'est de Michel Clou, « Cette colère ».
Intense et éprouvante, heureuse et bouleversante, quand la vie offre ce qu'elle a de meilleur et de plus redoutable. À l'aube de ce virage incertain, je me suis réveillé orphelin. Je ne pouvais plus bouger, j'avais le dos détruit, les genoux, les tibias, les chevilles embouillies. Je n'avais plus de voix. Un animal en panique, pris dans les phares d'un véhicule invisible, avec pour seul refuge cette colère pourtant apprivoisée. Au fil des années, je suis retombé dans son piège, des coups de poing dans le vide, dans toutes les directions. Je brassais du vent, me cognant partout, parfois jusqu'au sang. T'es perdu toi aussi, encore plus que moi-même. Ta première expérience du deuil, de l'absence. Tu étais le fils, j'étais le père. Un million de questions sans réponse. Cette même colère, des coups de poing dans le vide, des coups de poing dans l'air. J'aurais bien voulu te rassurer, car tu avais peur, j'en étais incapable. J'avais peur, moi aussi, t'expliquer l'inexplicable. Pour accepter l'inacceptable, le temps s'en chargera à ma place, malgré toi. Pas d'autre issue de secours que de transformer cette rage en énergie, en amour. Ce que j'avais à faire pour toi, recycler cette colère. Ce que j'avais à faire, à nouveau entrer en guerre. Recycler cette colère, recycler cette colère. Car aujourd'hui, plus qu'hier, cette colère reste mon meilleur carburant. Recycler cette colère, recycler cette colère. Car aujourd'hui, plus qu'hier, cette colère reste mon meilleur carburant.
Jouer des tours de con dans le dos de votre bienfaiteur, hein, c'est ça? Les pipis, les cacas, les zizi, les touffes, tout ça, c'est amusant, hein, ça fait rire, hein. Et ça te fait encore rire, visiblement, toi, hein. Et ça, ça te fait rire, hein. Quand on saisit le fruit, la branche, crac. Redresse-toi, tu me dégoûtes. Je suis colère, les enfants, je suis colère. Je suis violence parce que je suis trahison.
Voilà, Monsieur Manhattan, Spoolvord, je suis colère, et puis avant Michel Kloup, avec cette colère, et oui, donc on va revenir sur le bilan de cette saison, et puis cette fin de championnat. Et ben moi, mon ressenti, c'est je suis colère, je suis très déçu des trois dernières journées de championnat des Stéphanois. Il faut savoir qu'on était quatrième il y a deux journées de ça, la 35e journée de championnat, on était quatrième. On se retrouve sixième et on n'est pas sûr d'assister à la Ligue Europa l'année prochaine. Il faudra attendre cette semaine, hein, fin de semaine, avec cette rencontre dans la Coupe de France entre les Parisiens et les Marseillais. Certains supporters stéphanois seront supporters des Parisiens, moi pas par exemple, hein. Voilà, on mérite ce qu'on a, hein, tout simplement, hein. On attendra l'échéance, hein. Si ça passe, tant mieux, et sinon bah c'est pas grave, hein, on tentera l'année prochaine. Mais en tout cas, point de vue jeu, Galtier et ses apôtres, ça n'a pas été ça. J'ai parlé tout à l'heure des dix dernières journées. Point de vue jeu, il y a de quoi être colère. Eric.
Ouais, mais t'as raison. Le constat qu'on peut faire, c'est qu'on régresse au classement. Ça, c'est la première donnée. Le bilan en termes de jeu est très décevant. Bon, on a connu également une cascade de blessures qui n'a rien arrangé. Alors, on a rarement eu l'occasion de s'enflammer, hein. On retiendra le parcours européen. Cette année, on a enfin réussi à sortir des poules. Mais moi, je retiendrai avant tout cette semaine terrible avec le but encaissé dans le temps additionnel à Marseille et qui a ensuite conduit à la débâcle à Bâle. On a mis beaucoup de temps à relever la tête après ça, et quand on est parvenu à le faire, bah ça n'a pas suffi. Et on pensait qu'on allait bien terminer la saison, et puis on s'est écroulé lors des trois dernières rencontres dans le Money Time, les fameuses rencontres qu'il ne faut pas perdre. Et ben, on n'a pris qu'un point sur neuf, et on se retrouve dépendant du Paris Saint-Germain pour obtenir une quatrième qualification européenne de suite.
Ouais, moi je dis merci les Verts pour ce parcours européen, parce que on a cité quand même des bons matchs. Tous les deux, on était à Bâle. Bon, c'était quand même il y a au bout du suspense. Bon, il y a le scénario un peu foufou, mais bon, c'est vivant. Moi, ça fait partie du football. Il y avait énormément de Stéphanois en Suisse. Ça fait vraiment du bien. Je me souviens de à domicile la victoire facile face à au finaliste de l'année dernière de la Ligue Europa, Dniepropetrovsk. Et c'était un super match, une super ambiance. Il faisait froid. C'est ma meilleure partie à Geoffroy Guichard cette année. Et puis il y a eu d'autres matchs qui ont été vraiment sympathiques en Ligue Europa. Heureusement, parce que l'année précédente ça n'a pas été ça. Par contre, en championnat, et ben comme tu l'as dit, en la saison 2014-2015, on avait fini cinquième avec 69 points. C'est quand même 11 points de plus que maintenant, et surtout un goal average de plus 21. Plus 22 la saison précédente, avec le même nombre de points, on finissait quatrième. Et la saison d'avant, c'était cinquième avec 63 points. Donc là, avec nos 58 points, finir sixième et avec un goal average simplement de plus 5, il y a vraiment une régression. Et il y a une régression vu les départs, parce qu'on a perdu Brandao, on a perdu Aubameyang, on a perdu Gradel. Gradel, en fin de compte, Gradel et Ruffier cachaient un petit peu la misère. Et Gradel étant parti, il reste plus que Ruffier. Ruffier nous sauve en fin de compte de cette sixième place, parce que sans Ruffier, je suis désolé, cher auditeur, mais à mon avis, on est plus à la dixième place. Hein. Donc j'étais vraiment déçu. Il y a peut-être un match à retenir qui a été bon, c'était ce déplacement à Bordeaux, tu y étais,
ouais.
Où là, il n'y a pas eu photo. Il y a eu une bonne pioche avec Tanane qui a fait un bon mois, qui était explosif. Mais sinon, mais ça a été, c'était tristouné et toujours aussi inoffensif. Et moi, ça commence à me peiner. C'est pour ça que j'ai passé cette colère de Michel Clou. Karl, tu veux rajouter quelque chose ou pas ?
Oui. Bon, effectivement, il y a une régression, mais en fait, on s'aperçoit quand même que Saint-Étienne, depuis plusieurs années, quand même, maintenant, retrouve Saint-Étienne à la fin de chaque saison en haut du classement, quand même.
Ouais, on reste effectivement, en tout cas dans les 6-7 premiers. C'est sûr que ceux qui ont connu les années 90 et fin et début des années 2000, pardon, ouais, c'est sûr que ça change la donne. Mais bon, il y a de quoi être énervé vu l'engouement qu'il y a autour de ce club, et on l'a vu encore samedi soir. T'as presque 40 000 spectateurs qui viennent faire la fête, et ça c'était super. Mais résultat, il y a pas de répondant sur le terrain, et moi cet écart là me dérange un peu. Football en Haute-Loire pour cette émission coup de tête. Alors dans le championnat le plus haut, c'est-à-dire en CFA, le Puy recevait à domicile cette équipe sochalienne, la réserve sochalienne, et les Poneaux ont fait que match nul face à Sochaux, après un match assez décevant. Les Poneaux ont dominé dans le jeu, et à la 20e minute de jeu, suite à un corner, c'est le Puy qui trouve le chemin des filets grâce à une frappe d'Ishan. Et au fil de la première période, les Poneaux continuent à pousser, ils obtiennent un penalty et ils ont l'occasion d'aggraver le score, mais malheureusement le gardien adverse détourne le tir, et on reste sur ce score de 1-0 jusqu'à la mi-temps. Et au bout de la deuxième mi-temps, les Poneaux se sont écroulés. Ils ont eu trop peur de que les autres viennent. Et malheureusement, les Sochaliens vont revenir dans la partie. Et ça sera sur le score final de 1-0 que les Poneaux et Sochaliens se quitteront. Ça n'arrange pas les affaires des Poneaux, puisqu'il reste quand même 2 journées de championnat. Ils affrontent Chasselet et Grenoble. Grenoble, c'est pas simple. Chasselet, c'est un petit peu plus simple. Mais bon, il va falloir grappiller des points pour rester dans ce championnat amateur. En CFA 2, c'est une bonne nouvelle, c'est du côté d'Andrézieux. Hein, Andrézieux qui va monter parce qu'ils ont fait le trou. Il reste exactement 2 matchs et ils l'ont emporté face à la réserve de Clermont 3-1. Et dans le même championnat, c'est la réserve de Saint-Étienne qui fait un match nul, 2-0 à Besançon. Ça sent plutôt bon le maintien pour cette équipe de Julien Sablé. En division d'honneur, Polignac a fait 0-0 à domicile et reste accroché à sa 6e place. Et ça, c'était face à Ytrac. Et en division d'honneur régionale, alors j'ai pas tous les résultats, excusez-moi cher auditeur, j'ai simplement Chadrac qui l'a emporté face à la réserve de Thiers 4-1. Et dans la poule B, c'est la réserve Dupuis qui l'emporte 3-1. On sait que dans la poule A, de toute façon, Espaly va monter en division d'honneur. Voilà, c'est terminé pour le football en Haute-Loire. On va passer un dernier titre musical. Et oui, dernier match oblige, les joueurs sont en vacances. Et moi, j'ai trouvé un titre d'énervé. Hein. On est toujours dans le même registre. Ça sera les Sex Pistols avec Holidays in the Sun. Sex Pistols, Holiday in the Sun. Vous êtes dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Et pour la dernière, toujours en présence d'Eric, de Karl et de Pierre, hein, Pierrot. Et puis moi-même, on va essayer de terminer cette émission. Il nous reste à peu près 10 minutes. On va bien sûr parler des coups de cœur et des coups de tête. Jingle.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Coup de cœur, messieurs, est-ce que vous avez des coups de cœur ?
On en a plein. On a évoqué tout à l'heure le 40e anniversaire de la finale de Glasgow, donc je ne sais pas, messieurs, si vous avez pu voir le magnifique documentaire qui a été diffusé mercredi soir sur Canal Plus Sport.
Eh non, je suis pas abonné à Canal Plus.
Donc un documentaire coproduit par l'ASS, l'INA et Canal Plus, réalisé par Benjamin Rassa et qui s'intitule Saint-Étienne, l'épopée 76. Il y a pas mal d'images inédites et de témoignages très émouvants des acteurs de l'épopée. On voit notamment Sinagal et Santini pleurer en se remémorant cette époque dorée, donc je vous recommande de vous procurer le DVD qui sera en vente à partir du 20 mai prochain. J'ai beaucoup aimé également donc cette folle semaine verte, tous ces moments que j'ai pu vivre avec les anciens Verts. Ça peut paraître incroyable de célébrer en grande pompe 40 ans après une défaite, mais jamais une équipe française n'aura autant marqué les gens, pas même les Bleus, pourtant champion du monde 98. J'ai aimé le retour de Béric sur le terrain, j'ai aimé la formidable ambiance ce samedi soir à Geoffroy Guichard, les tifos somptueux, les chants continuent, même si malheureusement la fête a été gâchée par ce qui s'est passé en fin de rencontre. Et puis un dernier coup de cœur pour la deuxième édition du tournoi européen de football section Andy Supporters qui s'est déroulé ce week-end sur le terrain de l'Étivalière qui jouxte le stade Geoffroy Guichard. Un tournoi organisé par mon ami Carlos Acosta, l'ancien attaquant uruguayen du Puy, et parrainé cette année par Roland Romeyer et Georges Beretta. Voilà, c'est un événement qui méritait bien un coup de projecteur.
Bien, ben écoute, moi aussi j'ai beaucoup aimé l'ambiance du stade, hein, vraiment... Déjà, il y avait du monde et puis c'était chaud bouillant. Malheureusement, sur le terrain, il n'y a pas eu trop de répondants et c'est regrettable. J'aime bien la nouvelle comme quoi il n'y aura pas d'augmentation pour nos abonnements. Quand tu vois que dans certains clubs, ça va augmenter de 10, 15 euros. Et ben nous, ça bouge pas, c'est relativement correct et ça reste populaire et ben bravo aux dirigeants pour ça. Messieurs, est-ce que vous avez un coup de cœur, Pierrot ?
Ben moi, c'est également cette ferveur que je vois à chaque fois quand je viens voir le match. C'est extraordinaire, même s'il n'y a pas de jeu proposé, c'est toujours une super ambiance. Et notamment, j'ai cette image d'un petit garçon devant qui avait fait son propre petit drapeau avec son dessin et il était tout fier de le brandir et j'adore ces images.
Ouais, exactement, ouais. Très touchant et c'est vrai qu'il y a tout le monde quoi. On a vu les mamies, les papis avec les petits enfants, c'est toujours sympathique.
Moi, j'ai adoré les fumigènes, vraiment, j'adore.
Alors et c'est un Parisien qui parle, donc c'est un peu logique hein, puisque au Parc des Princes, ils connaissent plus.
J'adore, c'est vraiment beau, je trouve. Et j'ai adoré les nouvelles tribunes. C'était la première fois que je revenais au stade. Dans la tribune côté sud, et vraiment j'ai été agréablement surpris par par le spectacle offert dans les nouvelles tribunes. J'ai trouvé ça vraiment somptueux. J'adore, j'adore.
Eh bien.
Vous écoutez l'émission voilà. Coup de tête. Voici les coups de tête.
Coup de tête, Eric.
Coup de tête, je n'ai pas aimé l'arbitrage une nouvelle fois défaillant de Clément Turpin.
Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus.
J'ai pas aimé non plus la sono du stade, inaudible depuis le Cop Sud et indigne d'un stade qui s'apprête à recevoir l'Euro. J'ai pas aimé l'absence de Ruffier et Perrin de la liste de Didier Deschamps, y compris parmi les réservistes. J'aime pas notre inefficacité offensive chronique, notre incapacité à inscrire un but à domicile en première mi-temps. Le dernier remonte incroyable mais vrai au 17 octobre, c'était l'œuvre de Robert Béric. Depuis le 17 octobre, on n'a pas inscrit un but à Geoffroy Guichard en première mi-temps.
C'est vrai que c'est plus qu'inquiétant, quoi.
Et de manière générale, j'ai pas aimé cette saison, le manque de spectacle et la pauvreté du jeu proposé.
Bon, là-dessus, tu me rejoins. Pour me concernant, Turpin, autant il avait arbitré le match entre Saint-Etienne et Lyon, le derby, avec notre victoire miraculeuse à ce moment-là, il avait pas été, il était pas tranchant comme avant-hier. Parce que avant-hier, il a pas été bon. Il a jamais maîtrisé un match de foot pour moi. Hein. Je me souviens ses débuts. C'était justement face à Nice. Hein, il y avait toujours le même Balmont, la petite Balmont. Et Turpin pour moi. C'est comme les émissions précédentes. C'est ces gens-là qui vont doubler leur salaire. Le fait qu'ils passent professionnel, ça me dérange vraiment que Monsieur Turpin va toucher autour de 10 000 euros. Sérieusement. J'ai pas aimé la nouvelle tenue là du coq sportif, le maillot, c'est exactement le même. Il n'y avait pas grand-chose qui change. Voilà, je trouve que c'est un peu. Alors, je dis quand j'aime pas, c'est qu'un détail, mais bon, je trouve que il pourrait faire autre chose. Il y a tellement de choses à faire sur une tenue, même si c'est des petits détails, il y a un travail de composition qui devrait être plus intéressant. Messieurs, vous avez coup de tête, Pierrot, Karl?
Ouais, non, mais c'est également l'arbitre, évidemment. Je pense qu'on pourrait peut-être tous les supporters stéphanois lui envoyer. Des vieilles paires de lunettes chez lui pour faire une blague.
Ouais. Ouais, mais c'est il raconte ça vu le penalty non sifflé de la faute d'Enyama sur Amouma. Évidemment il était à côté quoi. Donc c'est de la malhonnêteté tout simplement. Et puis j'aime pas aussi le fait qu'on de saison en saison on marque beaucoup moins. Et on marque beaucoup moins et puis les points on perd quand même 11 points en une saison. Et c'est le départ de Gradel hein. C'est le départ de Gradel, c'est aussi simple que ça. Voilà, l'émission se termine 38e journée, 38e émission, c'est bien terminé. On se retrouvera chers auditeurs fin août début septembre bien sûr en compagnie d'Olivier. Je tiens à tirer un coup de chapeau à Olivier quand même qui avait prévu la remontée de Lille. Effectivement, là-dessus, il a eu raison.
C'est vrai.
Lille est finie devant nous. C'est hallucinant parce qu'il l'a dit quand même il y a un mois et demi de ça. Donc, chapeau à lui. Et on le retrouvera de toute façon la semaine prochaine. Il animera sûrement une émission, comme il me l'a dit, relatif au football. Il a une interview à vous faire passer, cher auditeur. Et puis, de toute façon, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, au mois de septembre pour une nouvelle saison coup de tête. Allez, salut à vous et allez les Verts.
Bonne semaine à toutes et à tous. Rendez-vous la saison prochaine et allez les Verts.
Allez les Verts.
Allez les Verts.